c'est ludique, c'est l'heure de jouer.
Vous ne le savez peut-être pas, mais quand vous buvez un verre de rhum ou de vodka, l'abus d'alcool, on le dit tout de suite, est dangereux pour la santé, il y a un gros travail avant. Tous ces alcools nécessitent un mélange minutieux d'ingrédients et de traitements pour vous assurer d'obtenir la meilleure boisson distillée. Alors aujourd'hui, on joue à Distilled, un jeu de Dave Beck que nous propose en France Matago. Alors pour l'histoire, vous venez d'hériter d'une ancienne distillerie abandonnée et vous êtes chargé de la remettre en état. Alors à l'époque, où c'était l'une des plus réputées d'ailleurs, des points de renommée, eh bien il faudra en gagner car c'est celui qui en aura le plus à la fin de la partie qui gagnera et sera donc le nouveau responsable de cette distillerie. Vous allez placer sur la table un plateau score. Chaque joueur prendra un plateau représentant sa distillerie et une fiche en recette afin de pouvoir distiller certains alcools. Alors au centre de la table, on disposera plusieurs rivières de cartes, ingrédients, améliorations et équipements. Vous aurez aussi un plateau avec les ingrédients dits classiques. Vous avez un côté asymétrique puisque chacun de vous aura un distillateur avec une capacité spéciale. Chacun aura une recette signature et un ingrédient signature que vous seul donc pouvez fabriquer. Dans Distilled, vous aurez 7 manches pour acheter des ingrédients, des bouteilles, des barils, des recettes, des améliorations d'équipement et du personnel pour créer et distiller les meilleurs spiritueux. Dans une manche, il y a 4 phases. La phase marché, de distillation, de vente et d'âge. Alors on va commencer par la phase marché. Tous les joueurs vont pouvoir acheter à leur tour de nouveaux ingrédients, équipements, améliorations à ajouter à leur distillerie. 2 ingrédients de base peuvent être achetés sur le marché de base, l'eau et la levure, et d'autres ingrédients, du sucre notamment. Équipements premium peuvent être achetés sur le marché principal, leur prix est indiqué sur la carte. Alors vous pouvez acheter des cubes recettes pour distiller des spiritueux meilleurs et plus intéressants. Tout ce que vous allez récupérer, tout ce que vous avez acheté, eh bien vous les mettez sur votre plateau. Par exemple, les ingrédients vont aller, eux, dans le cellier. Après avoir passé, car vous n'avez plus d'argent pour acheter de nouvelles choses, vient la phase de distillation. C'est le moment de mélanger vos ingrédients. Pour ce faire, vous allez mettre vos cartes ingrédients dans le washback, sur le côté du plateau. Tous ces ingrédients sont utilisés pour créer un spiritueux et au moins une carte levure, sucre et eau doit être utilisée. Des cartes alcool sont ajoutées pour chaque sucre et toutes les cartes sont mélangées. Les cartes au-dessus et en bas du paquet sont retirées et placées dans votre réserve pour les prochains tours. Attention, vous ne pourrez distiller que les recettes que vous avez débloquées. Seuls la vodka et le moonshine sont disponibles au début et sont toujours débloqués. Après avoir distillé, il est temps de passer aux ventes. Oui, car vous n'allez pas tout boire. Plus sérieusement, soit vous allez les vendre tout de suite, soit vous allez les mettre dans la cave, car certains spiritueux ont besoin de vieillir au moins une année, soit une manche avant d'être vendus. Alors pendant la phase de vente, vous allez mettre vos alcools en bouteille qui vous permettront de gagner de l'argent mais aussi des points de renommée. Alors ces points et l'argent remporté sont indiqués sur les cartes qui composent votre spiritueux. Vous gagnez aussi l'un des bonus étiquettes de votre plateau. Pour ça, il suffit de poser l'étiquette sur l'un des bonus. Ça vous donne par exemple un ingrédient en plus ou un équipement en plus, une amélioration. Alors si jamais vous ne pouvez pas vendre de bouteille lors de cette manche, il est possible de gagner de l'argent en organisant une dégustation. C'est toujours mieux que rien. Vous gagnez 4 pièces pour cet événement, mais vous perdez 4 points de renommée. Mais parfois, il vaut mieux perdre un petit peu de points de victoire pour récupérer de l'argent afin de pouvoir acheter des ingrédients. Parce que si au tour suivant, vous n'avez pas assez d'argent pour pouvoir faire un spiritueux, les autres vont peut-être en faire et vous risquez d'être un petit peu à la bourre. Alors, les spiritueux non vendus seront stockés. Ils vont prendre de l'âge. Alors, pour faire vieillir vos alcools, vous placez la pile de cartes dans votre entrepôt et ajoutez une carte arôme face cachée à la pile. Plus vous allez le faire vieillir et plus vous allez rajouter d'arômes et plus vous aurez 2 points. Mais attention, il n'y a que 2 places dans votre entrepôt, donc à un moment, il faudra vendre votre spiritueux. Il y a des objectifs personnels et communs. Si jamais vous réalisez l'un des objectifs communs, vous récupérez une médaille. À la fin de la 7e manche, celui qui a le plus de points remporte la partie. Vous pouvez gagner aussi plus de points grâce à votre collection de bouteilles. Dans Distilled, la thématique est au cœur du jeu. Il faudra acheter des ingrédients pour réaliser des recettes. Bien choisir comment dépenser votre argent, car vous ne pourrez pas tout acheter. Le jeu est profond avec beaucoup de recettes. Certains spiritueux ont une exigence spécifique en matière d'ingrédients et en retirant 2 cartes lors de la distillation, vous pouvez retirer les 2 seules cartes dont vous avez besoin pour compléter une recette. Il y a un petit côté chance aussi, il existe aussi un mode solo que je vous laisserai découvrir. Dernière chose, l'édition issue d'un Kickstarter est tout simplement top, hein. La boîte est importante, mais croyez-moi, elle est bien remplie. Le matériel est vraiment de qualité. Bon, c'est pas tout, mais à force de parler, je commence à avoir soif, moi. Il est temps d'aller remplir mon verre d'eau, bien sûr. Allez, d'ici quelques instants, on va retrouver Jonathan du magasin Terre de Jeux à Rennes pour ses coups de cœur ludiques avant l'été.
C'est Ludique, votre émission sur les jeux de société.
Et le lundi, habituellement, c'est toute l'info ludique avec Ludo, mais Ludo est un petit peu malade aujourd'hui et c'est Jonathan qui est là du magasin Terre de Jeux à Rennes. Salut Jonathan.
Salut Mathieu, salut à tous.
Alors dans deux jours, c'est l'été, tu vas nous parler un petit peu de tes coups de cœur au magasin.
Bah, oui, du coup, je pensais vous parler un petit peu des coups de cœur de ces dernières semaines slash mois. Donc là, bah, je suis à la boutique devant le rayon nouveauté. Donc il y a quelques centaines de jeux qui sont sortis ces derniers mois.
Quand même.
Donc je vais essayer de pas m'éparpiller et essayer de vous parler des choses moi qui m'ont vraiment marqué, que j'ai trouvé chouettes, qui m'ont un peu touché.
D'accord.
Alors déjà, pour nous, la grosse sortie de cette première moitié d'année, c'est, alors j'en ai déjà parlé, je crois un tout petit peu un jeudi, c'est Brawl Bad Wombat.
Ah oui, le fameux jeu.
Ouais, immense coup de cœur de pas mal de membres de l'équipe de Terre de Jeux. Donc nous, on est très très fans de jeux d'ambiance débile et avec Brawl Bad Wombat, on a été gâtés. Donc le principe de Brawl Bad Wombat, c'est qu'on va devoir faire un petit jeu de bébé. On a des petites tours à reconstruire avec des cubes qu'il faut empiler, qu'il faut encastrer les uns dans les autres pour faire des petites pyramides. Donc là, déjà, on a l'air très bête. Le truc, c'est qu'on va avoir les yeux fermés et qu'on a qu'une seule main pour faire ça. Donc on est tous en train de farfouiller dans la boîte pour récupérer les cubes, pour les encastrer, tout ça. Donc, faut essayer de reconnaître leur taille pour bien les enfiler dans le bon sens.
Ouais.
Et tout ça en coopération. Alors, le truc, c'est qu'on a 1 minute 30 pour faire ça. Donc, c'est très tendu, c'est le gros bazar. Et que, en plus de ça, la petite cerise sur le gâteau, c'est que parmi nous, il y a un méchant. Il y a un traître qui ne veut pas qu'on réussisse à faire notre jeu de bébé. Et donc, il va nous enlever les pièces, nous mettre des mauvaises pièces, etc. Et à la fin de chaque manche, notre sort du loup-garou, on va voter pour éliminer quelqu'un. Donc, faut pas que le méchant se fasse griller. Donc ça, c'est rigolo, parce que si on élimine un copain, ben, on se rend le jeu encore plus dur. Mais si on arrive à éliminer le traître, eh ben, on va peut-être se faciliter un peu les choses.
Mais oui.
Voilà, ça, c'est l'immense coup de cœur pour le moment de cette année de l'équipe. Voilà, une belle bêtise, comme on aime bien.
Et il y a une bonne rejouabilité sur ce style de jeu ?
Bah, c'est du jeu d'ambiance, quoi.
Ouais.
Donc, tant que ça vous fait marrer, ça vous fait marrer. Après, on est vraiment dans le jeu d'ambiance, je dirais. Ça mélange pas mal les genres quand même, donc c'est très proche du, je trouve, même si c'est d'autres mécaniques, mais du jeu de rapidité, du jeu d'adresse. Donc
ouais.
Effectivement, c'est un peu tout le temps la même chose, mais ça prend bien quand même. C'est la bonne déconne et c'est du super taf et ça crée vraiment une interaction forte entre les joueurs aussi qui est très drôle. En même temps coopératif, en même temps avec de la traîtrise, donc moi je trouve ça vraiment
parfait. Donc ça, c'est un gros coup de cœur du magasin alors.
Ouais, gros coup de cœur. En sortie plus récente, à la fois une nouveauté et pas trop, il y a le nouveau The Mind de Wolfgang Warsch accompagné de Reinhard Staupe.
D'accord.
The Mind, le devin. Donc ils sont allés encore plus loin. Alors pour ceux qui ne connaissent pas The Mind, c'est l'un des jeux les plus révolutionnaires de ces dernières années. L'idée c'est qu'on est sur un jeu coopératif où on a des cartes de valeur en main, des cartes qui peuvent aller de 1 à 100.
Ouais.
Et il
n'y
a pas d'ordre du tour.
D'accord.
On a les cartes en main et quand on pense que c'est à soi de jouer une carte, il faut la jouer. Le but, c'est de jouer les cartes en ordre croissant. Donc si tu as un 27, Mathieu, et que moi j'ai un 8, il faut d'abord que je joue mon 8, puis mon 27. Et de manche en manche, on a de plus en plus de cartes et il y a une sorte de défi comme ça qu'on essaie de relever. Et ben dans The Mind, le devin, ils sont allés encore plus loin parce qu'on va jouer nos cartes face cachée. Donc c'est-à-dire que tu as le 8, j'ai le 27. Il faut qu'on comprenne que tu joues le 8, mais face cachée, et que du coup, après, c'est moi de jouer le 27, puis à toi de jouer le 32, mais je ne sais pas du tout ce que t'as joué, donc c'est un gros délire. En contrepartie de ça, il va y avoir à chaque manche un joueur qui sera le devin, qui donc va consulter quelques cartes avant qu'on joue, et va pouvoir noter la valeur d'une de ces cartes.
D'accord.
Et donc, on va encore plus loin dans cette espèce de communication un peu barrée. Super idée pour The Mind. Ça peut être joué par des joueurs qui ne connaissent pas The Mind, comme pour les fans, c'est très très bon.
D'accord.
Bon, j'enchaîne, hein, tu m'arrêtes quand
je m'arrête. Ouais, je t'arrêterai quand ce sera l'heure.
Dans les surprises aussi, alors là, c'est le Double Connect.
Oui,
Ça, on ne l'avait pas vu venir. Vraiment très très bonne idée. Donc j'ai du mal à trouver le nom de l'auteur sur la boîte, il doit être caché quelque part. Mathieu Aubert, c'est pas écrit très très gros. Donc j'imagine que tout le monde connaît Double, je réexplique pas, hein,
non.
Le principe de rapidité et d'observation visuelle. Donc là l'idée c'est qu'en plus de jouer au Double de rapidité où faut trouver les symboles communs entre les cartes, eh ben on joue un jeu de placement interactif. On va jouer une sorte de puissance 4
ouais.
Où on a chacun un paquet de cartes à notre couleur. Donc il y a les symboles dessus, mais en plus il y a un pourtour à notre couleur. Et donc il faut aligner 4 cartes de notre couleur. Mais tous en même temps, donc c'est très frénétique, il faut essayer de jouer les cartes aux bons endroits pour se créer des lignes, mais en même temps essayer de bloquer les autres. Donc il y a une vraie tension qui est très chouette, et là où ça prend tout son sens, c'est à partir de 4 joueurs, on pourra jouer en équipe. Donc là, ça crie dans tous les sens. Bah, attention, il faut bloquer les verts là-bas. Oui, mais moi, j'essaye de faire ça. Donc, c'est une super réinvention du concept de double. C'est très, très bien.
Ça marche bien, forcément.
Ouais, carrément. Et un autre truc aussi qu'on n'avait pas vu venir. Super bonne idée. Timeline Twist. Donc ça, Timeline, pareil, c'est une série assez connue de Frédéric Henry. Pareil, c'est un grand auteur qui a bossé sur cette version-là. C'est Corey Koniska qui a bossé sur Timeline Twist. Et donc, sans rentrer dans les détails, l'idée géniale du jeu, c'est que c'est Timeline, mais en coopération. Donc, on va avoir un jeu de culture générale où on essaie de replacer des événements historiques comme dans Timeline. Mais au lieu, comme c'est souvent le cas dans ce genre de jeu, de montrer qui est le plus cultivé autour de la table, on va s'entraider. On va dire, t'es sûr que tu veux jouer ça? Parce que moi, je pense que ce serait mieux de faire ça, etc. Ça ressemble un petit peu à The Game pour ceux qui connaissent. L'idée étant plus de placer les cartes au bon endroit, mais de révéler des cartes, de les placer là où elles doivent aller, et essayer de pas bloquer les autres joueurs.
Et on sait que tu aimes bien les jeux coopératifs.
Oui, j'aime beaucoup les jeux coopératifs, et sur un jeu de culture générale, je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée. Ça apporte quelque chose de nouveau.
On va en faire un petit dernier. Est-ce qu'il y a un gros jeu là qui t'a marqué?
Oui, il y a un gros jeu qui m'a marqué, tu le sais bien, Mathieu, je voulais en parler en dernier. Donc, je ne parlerai pas de Focus, du coup, et je passe directement sur Sink or Swim.
C'est un gros jeu, ça?
Sink or Swim, non, ça, c'est un tout petit jeu, par le format et par la durée de partie, etc. Mais c'est un très, très grand jeu. Moi, je pense que c'est une claque, comme j'en ai pas pris depuis des années. Je pense que c'est le jeu qui m'a le plus marqué depuis la sortie de Loup-Garou pour une nuit, il y a une dizaine d'années.
Ah oui, carrément.
Ouais, encore une fois, on est sur un jeu coopératif totalement déjanté. L'idée, c'est qu'on va avoir des cartes en main, cartes classiques de valeur avec des couleurs, et le jeu va nous donner des missions à remplir. Donc on a un petit plateau devant nous avec des emplacements, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et le jeu va nous dire à la première manche, sur l'emplacement 1, faut que vous jouiez tous une carte de la même couleur. Donc là, on peut discuter entre nous, on va tous jouer une carte verte, etc. Attends, moi j'ai pas de vert, jouons plutôt un bleu, etc. Et on essaye de tous se coordonner comme ça. Plutôt facile. Alors le problème, c'est qu'on a très peu de temps. Par exemple, si vous jouez à 3 joueurs, vous avez 15 secondes pour faire ça. Donc c'est très très tendu. Vous avez réussi, super. On passe au niveau 2. Donc maintenant, on a une contrainte supplémentaire. Sur notre emplacement 1, il faudra toujours qu'on joue tous une carte de la même couleur. Mais sur l'emplacement 2, il faudra qu'on fasse une suite numérique entre nous. Par exemple, moi je joue le 3, mon voisin de droite le 4, etc. etc. Donc il faut se coordonner. Si on rate, c'est pas grave. On recommence et on a un petit peu plus de temps.
D'accord.
Et toute l'idée du jeu, c'est vraiment un sentiment de coopération exacerbé. Parce que quand on va avoir 6 objectifs à accomplir avec notre main de carte, il va falloir beaucoup discuter et surtout on n'aura pas le temps d'y arriver. Donc il faudra discuter avant de lancer le chrono, essayer de mettre une stratégie en place avec des gens qui vont être un peu plus leaders, des gens qui vont avoir aussi d'autres idées, etc. Donc il y a vraiment une interaction, une discussion très très forte entre les joueurs et un renouvellement des parties vraiment qui est très très élevé parce que ça marche avec une application qui va vous proposer diverses campagnes avec divers modes de jeu qu'ils appellent des twists, des nouvelles règles qui vont changer la partie à chaque fois. Donc, ce soit en termes de mécanique pure ou en termes d'édition, c'est vraiment génial. Et j'ai totalement oublié de citer les auteurs qui sont Lucas Edgren et Divya Edgren.
Là, on est sur un jeu qui est encore import, c'est ça? Il n'est pas encore sorti en France.
C'était la dernière chose à dire sur Sink or Swim, ce n'est pas sorti en France. J'en ai plus parce qu'on a tout vendu. Il y a une petite rupture temporaire, mais je voulais quand même vous en parler. Ça devrait revenir d'ici quelques semaines en anglais. Avec une traduction terre de jeu disponible.
Et ça arrivera en début d'année, je crois, chez Yellow. Donc il faut attendre encore un petit peu. Donc si vous voulez jouer à Sink or Swim, il va falloir vous procurer cette version.
C'est ça.
Quand je disais gros jeu, c'était plutôt jeu expert, mais bon, c'est pas grave.
Tu voulais que je parle d'un gros jeu expert? Je voulais le faire, mais je me dis que j'ai pas le temps de tout parler.
Ouais, non, là, il y a pas le temps. Est-ce qu'il y a un jeu expert comme ça, juste avec le nom qui t'a marqué là, ces derniers jours?
Alors, pas du tout ces derniers jours.
D'accord.
Pas du tout, mais alors pas du tout. Après, avec le métier, on devient un petit peu exigeant des fois sur les jeux experts. Et moi, c'est par contre, depuis le début de l'année, il y a Conceal of Shadow de Martin Kallenborn et Joran Scherrer, qui est vraiment très original et qui apporte quelque chose de très très neuf dans le jeu de société. Donc très axé sur le développement, la carte est faite, un petit peu de placement et plein d'idées super originales dans le jeu.
Eh ben super, merci beaucoup Jonathan, et on se retrouve jeudi pour Rétro Ludique cette fois-ci.
Merci Mathieu.
Salut à Jonathan.
Jeudi. Salut.